Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré vendredi 15 mai la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes quant à ce. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani a condamné vendredi 15 mai 58 militaires de FRDC à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Ces soldats qui étaient arrêtés par leur hiérarchie au Nord Kivu sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation. Selon les derniers rapports de l'OMS, l'hypertension artérielle touche un adulte sur 3 et tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde. Ce qui équivaut à plus de 24 000 décès par jour. Cette maladie constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence de Kinkanda au Congo central. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré vendredi 15 mai la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia dans la province de l'Ituri. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale INERBE ont confirmé 8 cas positifs sur 13 échantillons prélevés. Il s'agit de la souche Bundibugyo. À ce jour, 246 suspects et 80 décès ont été notifiés, dont 4 testés positifs. Ces informations de Suzanne Zobo-Odra sont rendues par Jean-Gandou Kabungo.
Dans un communiqué officiel, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures urgentes, notamment l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge gratuite et l'isolement strict des cas suspects ou confirmés, également le déploiement des équipes d'intervention rapide et des médicaments essentiels et l'intensification de la communication sur les risques et engagements communautaires. Le ministre appelle la population à rester vigilante, à signaler tout cas suspect et à éviter des contacts physiques avec les malades ou les personnes décédées. Un numéro vert, le 151, est disponible pour toute information utile. Ensemble, par la vigilance, la collaboration et la solidarité, nous vaincrons encore une fois cette épidémie, a déclaré le ministre.
Pendant ce temps, à Bunia, chef-lieu de la province, certains habitants commencent progressivement à adopter les mesures barrières, tandis que d'autres poursuivent leurs activités sans réelle inquiétude. Pour de nombreux habitants interrogés, ces précautions visent avant tout à protéger leur famille contre la maladie. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Dans plusieurs rues de Bunia, certaines personnes apparaissent déjà avec des cache-nez, d'autres circulent avec des flacons de désinfectant dans leur sac. Dans une pharmacie au centre-ville, nous rencontrons David Anguezou, venu acheter des masques pour sa famille.
Je vais acheter des casques, c'est pour ma protection personnelle d'abord.
Et dis-moi, ça signifie ma famille aussi.
Vous m'avez trouvé à la porte d'une pharmacie pour aller me ravitailler. À chaque fois, on a des contacts avec les gens, on se salit ou bien on se parle. C'est une mesure de prévention.
À quelques mètres de là, Sami Azabo, un autre habitant de Bunia, affirme lui aussi prendre très au sérieux cette nouvelle épidémie. Pour lui, la prévention commence d'abord au sein de la famille.
Non, à mes enfants, j'ai dit qu'il faut se laver la main chaque fois. Il ne faut pas salir les gens, c'est mauvais. Et il faut éviter les contacts du corps à corps. Il faut porter déjà les cache-nez. Parce qu'à Mongwalu, c'est très sérieux. Attention, parce que la maladie risque d'aller de quoi à un autre, se répandre pêle-mêle. On essaiera aussi éradiquer ça à si peu de temps.
Dans plusieurs pharmacies de Bunia, les vendeurs parlent déjà d'une forte demande en masques et produits désinfectants. Pendant ce temps, les autorités sanitaires appellent la population au respect strict des mesures barrières afin de limiter la propagation du virus dans la province. Bunia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Restons en Ituri où de nombreux voyageurs qui empruntent l'axe Bunia-Mongwalu, deux principaux foyers de l'épidémie d'Ebola, continuent de négliger les mesures de prévention contre cette maladie.
entassés chaque jour dans des camions de transport. Plusieurs passagers ne portent ni cache-nez, ni désinfectant. Certains affirment même ne pas croire à l'existence de cette épidémie. Une situation qui, selon plusieurs sources médicales, appelle à un renforcement urgent des campagnes de sensibilisation. Les points avec Isaac Remoyopé.
Chaque matin, près de 20 camions transportant des marchandises et des dizaines de passagers quittent Bounia en direction de Mungwalu. À cela s'ajoutent plusieurs camionnettes et véhicules de transport en commun. Dans la plupart des véhicules, les passagers voyagent serrés, les uns contre les autres sans respecter les mesures barrières recommandées. Très peu de voyageurs portent un cache-nez ou disposent de désinfectants pour les mains. Certains disent compter uniquement sur la protection divine, tandis que d'autres affirment ne pas croire à l'existence même de cette maladie. L'un d'eux rencontrait au parking du marché central de Bounia.
Moi, je ne suis pas certain de l'existence de cette épidémie. J'ai entendu dire qu'Ebola sévit et dans la région, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement d'Ebola ou d'une autre maladie. Chacun meurt avec des symptômes différents, donc je ne suis pas convaincu de la maladie qui tue réellement les gens. C'est pourquoi je reste sceptique et je ne porte pas de cache-nez.
Selon plusieurs sources médicales, cette méconnaissance du danger représente un risque majeur pour la propagation de l'épidémie qui aurait déjà causé plus de 80 décès dans la région. Ces sources demandent au gouvernement ainsi qu'aux partenaires de santé de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'imposer le respect des mesures barrières aux usagers de la route. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Justice à présent, le tribunal militaire de garnison de Kisangani a condamné vendredi 15 mai 58 militaires de FARDC à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Selon le porte-parole de la 34e région militaire, ces soldats faisaient partie d'un groupe de 84 éléments arrêtés par leur hiérarchie dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Ils étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite devant l'ennemi, révolte et dissipation des munitions. Les détails avec Bernadette Nyangui.
Ces militaires du bataillon Konga du 34-15e régiment étaient engagés dans des opérations contre l'AFC-M23 au village Ngululu dans le groupement Yamaboko Premier en territoire de Masisi, indique les sources militaires. Évoquant des arriérés de soldes et de primes, les prévenus avaient abandonné leur position depuis le 23 avril 2026. Avant de se retirer, ils avaient tiré plusieurs coups de feu en l'air, semant la panique au sein de la population civile, précise le porte-parole de la 34e région militaire. Après une brève détention à Walikale, leur dossier a été transféré au tribunal militaire de garnison de Kisangani, où le jugement a été rendu ce vendredi 15 mai 2026, avec de larges circonstances atténuantes, précise le major Dieudonné Kasereka.
Dans sa décision, 58 prévenus sont déclarés coupables des faits mis à leur charge et sont donc condamnés à 3 ans de prison et au paiement de 300 000 francs chacun de frais de justice. 16 ont été acquittés. Pour les 10 autres, le tribunal s'est déclaré non saisi en procédure de flagrance.
Dans son communiqué, le major Kasereka indique que la défense s'est dite partiellement satisfaite du verdict, estimant qu'un appel pourrait encore aboutir à l'acquittement de certains condamnés.
Un mot sur l'éducation dans ce journal. Le ministère de l'Éducation nationale vient de poser les bases de l'intégration du narratif génocoste dans le programme de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Il apprête un guide national de formation et élabore des outils pédagogiques adaptés. Cette réforme bénéficie de l'appui technique et financier de la Commission interinstitutionnelle d'aide et d'appui aux victimes SIAVAR ainsi que du Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit Fonarev. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation à la mémoire, à la citoyenneté et au patriotisme. À ce stade, l'initiative vise notamment à renforcer les capacités des inspecteurs, considérés comme les principaux relais des diffusions pédagogiques à travers les pays. Les conseillers en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au ministère de l'Éducation nationale expliquent que le narratif génocoste sera intégré de manière transversale dans plusieurs disciplines.
Dans le travail pédagogique justement d'intégrer intégrer cela dans différentes matières, différentes branches, que ce soit un thème transversal, mais avec des volumes différents selon qu'on est d'un âge à l'autre.
La CIAVAR a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner techniquement, scientifiquement et institutionnellement la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'appropriation du gène costaud. De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a indiqué que ces programmes visent à renforcer le sentiment d'unité nationale, condition essentielle du développement. Raïssa Malou.
Il vous revient d'accompagner les enseignants, de former les élèves et d'animer les clubs de veille citoyenne afin de transformer la mémoire collective en un levier d'unité et non de division.
À travers ces projets, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement à promouvoir une éducation fondée sur la mémoire collective, la citoyenneté responsable, le patriotisme et la cohésion nationale.
Situation sécuritaire à Kasenga, dans le Haut-Katanga. La députée nationale Micheline Mpundu Lundeba, élue de cette cité sur la liste du parti d'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a présenté vendredi une motion d'information à l'Assemblée nationale pour dénoncer une opération criminelle survenue dans sa circonscription électorale. Dans la nuit du 13 au 14 mai, des hommes armés non identifiés ont pris pour cible le couvent des frères Xavériens ainsi que l'école Saint-Joseph Sinkaniko, un établissement scolaire de plus de 1700 élèves. La députée nationale demande l'ouverture immédiate d'une enquête parlementaire afin de faire toute la lumière sur ces incidents. Les bilans font état d'importants dégâts matériels et d'un profond traumatisme au sein de la communauté religieuse. Micheline Mpundu décrit la situation dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Tentative de meurtre des frères Xavériens, les vitres de l'école de Saint-Joseph Chisamiko complètement cassées, les manuels scolaires et documents administratifs détruits et emportés, les vitres du couvent des frères Xavériens également cassées et les biens meublés cassés ou emportés. Ces incidents malheureux ont causé non seulement la panique, mais aussi le traumatisme dans le chef des frères Xavériens. Comment ces incivites ont pu atteindre ainsi facilement les installations des frères Xavériens, malgré les nombreuses barrières militaires érigées par-ci et par-là à travers toute la cité de Kasenga, sans qu'ils ne soient inquiétés? Je demande à notre bureau de saisir le gouvernement pour la réhabilitation des infrastructures détruites. Je demande à notre bureau de saisir enfin le gouvernement de rappeler constamment le service de sécurité, les missions d'assurer la protection des personnes ainsi que de leurs biens.
Depuis près d'une semaine, les usagers de la RN1 Kinshasa-Matadi vivent un véritable calvaire. Chaque jour qui passe, des embouteillages paralysent la circulation sur cet axe stratégique reliant la capitale à la province du Congo central, obligeant des conducteurs à passer des heures sur la route. Face à cette situation, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a annoncé la suspension du péage pendant 48 heures afin de désengorger les trafics et rendre la circulation fluide. Une mesure exceptionnelle qui prend fin ce lundi soir. Gloriane Lepeya pour les détails.
Sur place, les avis des usagers restent partagés face à la situation qui perturbe la circulation sur la route nationale numéro 1, malgré cette mesure annoncée par les ministres. Un chauffeur dénonce la poursuite de la perception de l'argent malgré la suspension annoncée, affirmant que certains agents continueraient à exiger les paiements.
Le ministre a dit qu'on ne paye pas les péages pendant 48 heures. C'est depuis samedi et ça prendra fin le lundi. Ceux qui ont la connaissance de cette information ne payent pas tandis que certains agents perçoivent de l'argent auprès de ceux qui ne sont pas informés.
Un autre estime que les problèmes dépassent les péages et pointe les travaux sur la route nationale numéro 1 ainsi que le manque de routes secondaires qui aggrave la situation.
Il n'y a pas de route. Nous avons qu'une seule route secondaire où nous empruntons avec vous les autorités. Ce n'est qu'un cadeau que vous nous avez offert et nous sommes contents, mais nous avons besoin de routes.
Sur ce tronçon, plusieurs usagers estiment que la route seule ne suffit pas à fluidifier durablement la circulation, appelant à des solutions plus globales comme les chemins de fer.
Retournons encore une fois au Nord Kivu. Les jeunes doivent tourner le dos à la distraction et s'engager dans des métiers et l'entrepreneuriat. C'est ce que pense un jeune de la ville de Beni au Nord Kivu pour lutter contre le chômage et les groupes armés. Ancien combattant lui-même, Jonas Mboussa s'est reconverti dans l'entrepreneuriat. Il a mis sur pied une petite unité de fabrication d'huile de palme avec pour objectif d'assurer son indépendance financière. Marc Marofimbo est allé à sa rencontre. Voici son reportage.
Installée au bord de la rivière Mieri qui traverse le quartier Mambango, la petite usine de fabrication d'huile de palme de Jonas Mboussa fonctionne chaque jour. Dans la cour, les allées et venues des motos sont constantes. Elles transportent des sacs de noix de palme en provenance de Makene, Sayo, Buruchu, Toda et même Doicha. Avec le soutien précieux de ses frères et de son épouse, ce jeune d'une trentaine d'années travaille avec détermination et voit sa clientèle grandir jour après jour. Sur place, Jonas Mboussa explique le processus de transformation dans cette unité artisanale. Quand les noix de palme nous viennent ici à l'usine, en provenance de Buruchu, nous les faisons cuire d'abord. Après ça, nous les broyons pour extraire l'huile. Des fois, nous broyons deux sacs à la fois pour aller vite. Je gagne ma vie dans ce travail avec ma famille. Et comme on n'a pas encore de moyens suffisants, le transport des colis de noix de palme se fait par moto. Je lance un appel aux jeunes, stop à la distraction. Le travail est la seule voie vers notre indépendance financière et le changement de notre vie. Grâce aux efforts de modernisation, notamment avec l'introduction des moteurs pour les moulins broyeurs, la production s'est améliorée. Aujourd'hui, cette petite usine produit en moyenne 4 bidons d'huile de palme par jour, vendus à environ 45 000 francs congolais l'unité, soit 20 dollars américains. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après plus d'un an sous blocus imposé par les djihadistes du Nîmes liés à Al-Qaïda, les habitants de Djafara Bay, dans le centre du Mali, ont vu arriver ce week-end un convoi de vivres escorté par l'armée malienne. Une première depuis mai 2025 accueillie par une foule en liesse.
L'invité.
Selon les derniers rapports de l'OMS, l'hypertension artérielle touche un adulte sur trois et tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde, ce qui équivaut à plus de 24 000 décès par jour. Cette maladie, appelée aussi tueur silencieux, constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Pour en parler, nous recevons le docteur Georges Baka, directeur médical adjoint à l'hôpital public de référence de Kinkanda au Congo central. Il s'entretient avec Élise Kavira.
Bonjour docteur Baka. On entend souvent parler de l'hyper et de l'hypotension. En des termes plus simples, comment pouvez-vous nous expliquer cela?
En des termes simples, l'hypertension artérielle peut être définie comme une élévation des chiffres tensionnels. L'hypotension artérielle, c'est plutôt une diminution de la pression du sang en deçà des limites normales, et cela de manière durable.
Pourquoi appelle-t-on cette maladie un tueur silencieux?
C'est une maladie qui est appelée tueur silencieux parce que pendant une longue période, la maladie peut déjà s'installer sans donner une symptomatologie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, très souvent, la découverte est fortuite en milieu hospitalier.
Qu'est-ce qui cause l'hypertension?
Sur les 100% des patients hypertendus, chez 90 à 95%, il y a ce qu'on appelle les causes primaires. Donc ça veut dire que c'est inconnu. Donc il y a plutôt des facteurs favorisants. D'abord l'alimentation, avec une consommation excessive en sel, la prise d'alcool, l'hérédité. Mais également il y a le mode de vie, la sédentarité, l'augmentation du stress. Dans notre vécu quotidien, nous sommes soumis de plus en plus à un stress important. Ici, il faut noter que avec l'âge, il y a le vieillissement de vaisseaux. Et donc, ces vieillissements peuvent également baliser un peu le chemin pour qu'il y ait éclosion d'une hypertension artérielle. Et de l'autre côté, il y a les maladies qui peuvent entraîner l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale, les maladies endocriniennes. Nous avons également la prise de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Tout ça, ce sont des causes secondaires qui peuvent entraîner la survenue de l'hypertension artérielle.
Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par l'hypertension? Est-ce que les enfants sont également touchés par cette maladie?
Là où nous avons un pourcentage élevé des patients, c'est en tout cas au-delà des 60 ans, des 65 ans. Et comme c'est un tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut déjà commencer, déjà à partir des 30 ans, jusqu'à donner une symptomatologie plusieurs années après. Mais nous notons aujourd'hui avec la modification des habitudes alimentaires, de plus en plus, nous avons des cas d'hypertension artérielle en pédiatrie, pratiquement chez les enfants. Donc Et ça, c'est vraiment inquiétant, nous devons le signaler, parce que aujourd'hui, avec le changement de style de vie, vous voyez aujourd'hui des enfants passer plusieurs heures devant la télé, cette sédentarité-là, ça influence. En tout cas, nous avons de plus en plus de cas d'hypertension artérielle chez les enfants.
Vous venez de parler des mauvaises habitudes à éviter. Inversement, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour se prémunir contre l'hyper ou l'hypotension?
Déjà, du point de vue alimentaire, il faut éviter les excès. Donc, il faut avoir une alimentation pauvre en sel, pauvre en graisse et pauvre en sucre. Éviter une prise excessive d'alcool. Réduire sensiblement votre stress, c'est un élément très important pour se prévenir de l'hypertension artérielle. Il y a certaines attitudes médicales qu'il faut adopter, comme avoir un tensiomètre à la maison, parce que c'est toujours important de contrôler sa pression artérielle dans un environnement où l'on se sent le plus à l'aise possible, parce que c'est toujours important de connaître ses différents paramètres, ses chiffres tensionnels, son poids, sa taille, son statut hémoglobine. Donc, de plus en plus, il y a des informations médicales que nous devons connaître. Mais il s'y est de noter ici que vous pouvez prélever les chiffres tensionnels chez vous, mais il faut développer une culture du check-up. Il faut toujours prendre le temps de passer, consulter un médecin, se faire checker, parce que l'hypertension artérielle donne également des signes qui peuvent être confondus à une autre pathologie. Donc, quand vous voyez des maux de tête, une douleur thoracique, des troubles visuels, de la fatigue, ce sont des signes qui, lorsque vous les observez, il faut toujours consulter un médecin. Et aux patients déjà reconnus hypertendus, le conseil, c'est de respecter les traitements que le médecin a instaurés, prendre régulièrement ses médicaments. La cessation ou la suppression de la prise médicamenteuse est décidée par les médecins. Je profite d'informer à la population qu'il y a au mois de mai, pour nous qui sommes dans la ville de Matadi, nous avons initié un dépistage. Nous allons prélever auprès de 30 à 50 000 personnes les chiffres tensionnels. C'est une activité qui a commencé depuis samedi 16 mai. Nous en profitons pour demander à la population d'adhérer à cela, parce que c'est très important que vous puissiez connaître votre chiffre tensionnel, ou s'il y a déjà des problèmes, vous orienter pour que vous soyez suivi, consulté et soigné en bonne et due forme.
Docteur Georges Baka, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de notre journal préparé pour vous par Jude Mystère Bilan Nkuma et mis en onde par Alain Goy.